Chapitre 12. Fine, quand une velléité la poussait encore au moulin, se défendait de révéler devant Marthe ses désirs d'amoureuse. Bientôt, elle s'accoutuma à ne plus franchir le ruisseau où elle se couchait pour rêver auprès de son pharaon. Celui-ci n'avait pas encore une fois envoyé de ses nouvelles. Fine, comme pour le punir de son dédain, se jura de ne plus penser à lui. Reine, sans prétention d'amour, n'était-elle pas heureuse? Ce midi, Fine et son père mangeaient la soupe. Une odeur de bois, de linge humide, se confondait dans la salle commune à la tiède odeur de purin qu'exhalaient les tables où l'on entendait, par la porte entr'ouverte, mugir les bœufs de temps à autre. Fine servait son père, qui avait seul le droit de se satisfaire l'appétit. Elle portait la soupière dans l'armoire, tirait du sel, arrachait une gousse d'ail au cordon pendu derrière le lit, remettait en place le pain, le plat de fèves sèches. Calice, une main sur la cruche, mangeait. Après chaque bouchée, il découpait régulièrement avec son couteau le fromage et son morceau de pain. Fine s'assit. Elle examina au dehors, par les vitres poussiéreuses de la porte, dans la longue allée de pruniers. Elle épia le jardin et, au-delà de la porte à claire-voie, le chemin désert, comme si vraiment une âme du ciel devait lui apporter son secours, ou comme si M. Maurice avait enfin annoncé son passage. Tout à coup, M. Maurice apparut. Elle tressaillit d'étonnement, d'un effroi étrange. Elle poussa un cri, vibra de tout son corps, dans une émotion de douleur qui, peu à peu, en s'apaisant, ne laissait que la joie de vivre plus vite. M. Maurice, non sans hésitation, avait poussé la porte à claire-voie, marché lentement par l'allée. Fine s'empressait de lui ouvrir la porte de sa maison. Sur l'ordre de son père, elle lui offrit l'unique chaise au siège de bois. « Bonjour, les amis !» salua M. Maurice qui s'épongeait le front. « Vous permettez que je me repose ?»« Comment donc, monsieur ?» répondit Calice. « Tout le temps qu'il vous plaira. C'est trop d'honneur pour nous. » Maurice souriait. Tandis que Fine s'asseyait à l'écart sur la dalle de l'âtre, Calice se mit à tournoyer devant le Seigneur avec une allégresse d'enfant. Des idées de délivrance, de fortune, d'orgueil agitaient le paysan que, depuis tant d'années, emprisonnait la misère. Maurice était venu demander Fine à son service, présenter à ses parents des conditions exceptionnelles d'argent, remplir de joie cette maison si pauvre. Mais il était venu sans informer de ses desseins sa mère, dont il prévoyait peut-être la résistance. Oubliant, dans sa naïveté de campagnard, que Fine habiterait le château de Valdez au vu de tout le monde, il avait revêtu son habit de chasse, pris son le faucheux pour dissimuler le but véritable de sa promenade. Comprenait-il donc que son désir de la pastoure ne le tenait que par la chair et qu'il était défendu à son cœur de s'abaisser jusqu'à cette convoitise? Éprouvait-il déjà si, après avoir contenté son caprice, il rejetait sa proie, la crainte de quelque remords en sa conscience ou la terreur d'une vengeance des Mauraques? Maintenant, son courage l'abandonnait dans ce logis sombre dont la tristesse provoquait trop de répugnance et de compassion. L'amour dans sa pensée se voila comme l'étoile au ciel sous un nuage. « J'étais descendu, dit-il, au ruisseau de l'Espille, tuer une brochette de petits oiseaux. Je crois que ce ne sera pas possible, l'hiver a tout détruit. »« Oh oui, monsieur, soupira Calice, même nous n'avons pas tous les jours du pain à notre suffisance. Est-ce que, si ça dépendait de votre bonne volonté, vous ne nous aideriez pas un peu ?»« Certes oui, avec enchantement, mais tout le monde a souffert. » Nos troupeaux ont péri de maladie, vous le savez, presque entièrement. Bah, vous me prendriez, moi ou une de mes petites, pour bêcher, garder des bêtes, un mois, 8 jours, quel bonheur pour notre brave famille. Je ne dis pas, il me faudra voir. Vous comprenez, mes serviteurs, jusqu'aux plus humbles, habitent le château depuis si longtemps. Puis, ils l'aiment, c'est leur patrie. Oh, nous aussi, nous l'aimerions de toutes nos forces. C'est que nous changerions de peau et d'esprit sous votre toit, dans vos larges cuisines. Nous ne serions plus des bêtes. Vos bêtes connaissent mieux la vie que nous. Allons donc, Calice, vous prêchez trop votre misère. Quand on a des enfants si reluisantes de santé, si parfumées de jeunesse. c'est que l'air des nourris, le grand air de nos plateaux où je les surveille, allez. Ah oui, ce sont des trésors pour la vaillance, la docilité et aussi, je peux bien le dire, pour la fourniture agréable de leur corps. » Calyste riait, les bras ballants. Maurice, souriant à peine, ne détachait point ses yeux de la pastour qui, toujours assise sur la dalle de l'âtre, cachait son front entre les mains. Calyste, subitement, s'enhardit. Portant la main à son chapeau de feutre, comme pour saluer, il supplia. « Monsieur, tenez, rien que cette petite, prenez-la, gardez-la le temps que vous voudrez, même sans la payer dans les débuts. Quand vous l'aurez vue à l'œuvre, je jure que vous l'estimerez. » Fine, pour montrer du courage, ôta ses mains de sa face ardente. Elle regardait vaguement au dehors, avec la même anxiété que tout à l'heure, lorsqu'elle attendait un secours du ciel. Elle tremblait de désir, d'effroi, sous les yeux de M. Maurice qui s'occupait d'elle. Une honte, cependant, dissipait son courage à mesure, parce que son père avait deviné peut-être le caprice de leur seigneur. Son père, en la proposant ainsi au service du château, diminuait la valeur de ses charmes, l'humiliait trop bas. Son émotion de dépit toucha M. Maurice. Il se tourna vers le paysan. Il se décidait enfin à embaucher Finette parmi son monde lorsque la vision de sa mère, auprès de lui, se dressa. Il eut peur. Haussant les épaules avec pitié, il dit « Calyste, n'insistons pas aujourd'hui. Le travail ne va pas au château. Les récoltes se vendent pour rien, les denrées sont hors de prix. » Pécaire, eh bien, nous attendrons. Je croyais que vous étiez venu pour ça, pour Fine. Moi, vous ne voyez donc pas mon fusil de chasse? Oh si, pardon, pardon. Qui donc a pu vous insinuer? Personne, je sors si peu de ma terre. « Oh, pour un homme discret, vous n'en trouverez pas un autre comme moi. » Fine avait brusquement levé la tête. Elle regardait son père avec angoisse, puis M. Maurice avec une douceur qui implorait. Maurice, tendrement, une seconde, lui sourit. Elle baissa la tête en rougissant, tout son cœur ému d'espérance. Cependant, Calyste, pour dissiper le souvenir de ses déclarations imprudentes, bavardait. « Oui, monsieur, jamais nous n'avons connu pareille misère. Quel sale gouvernement! Les impôts nous écrasent, les blés poussent mal, les vignes meurent. Oui, monsieur, si les enfants ne viennent pas à notre secours, nous sommes perdus et il nous faudra bien aller chercher une vie plus douce ailleurs, loin de ce quercy que nous aimons tant. » Fine, pour fuir son père, dont les insistances d'avare la desservaient auprès de M. Maurice, et pour jouir, une fois seule, bien à l'aise, de ses croyances heureuses, s'esquiva furtivement dans l'écurie auprès des bêtes. Maurice, fatigué par l'humilité de ce paysan déjà vieux, se pressa de partir. « Adieu, Calyste, ne vous inquiétez pas, je penserai à vous. Je l'espère bien, si vous me négligiez, par hasard, je monterai un jour au château. Non, pas ça, je viendrai ici moi-même, quand il faudra, quand je pourrai. Point d'obsession, Calyste, sinon vous compromettriez vos intérêts. Eh bien, monsieur, je vous écoute, j'ai confiance en vous. » Maurice déguerpit à la hâte. Et, le geste hardi, il murmura, sur le chemin désert où il retrouvait son courage et son désir croissant d'amour, « À bientôt !»